Bonsoir à toutes et tous, c'est parti pour une heure de Deeply Rooted sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3, une heure consacrée au rap US, à ses différents courants, des plus joyeux aux plus obscurs, du nord au sud, surtout au sud d'ailleurs, comme on le verra ce soir une nouvelle fois. Ravi d'être avec vous, tout comme mes partenaires j'imagine. Joachim, ce bon vieux Jojo est avec moi, comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
La forme et toi, Momo?
Ça va très bien, je cuisine le cajun si tu vois ce que je veux dire.
On est tous les trois. Je le laissais entendre dans l'intro, mais oui, on retourne encore une fois dans le sud, au cœur de cette troisième côte que nous aimons tant. Après Memphis, Atlanta, Houston. On vous invite d'ailleurs à réécouter toutes ces superbes émissions en allant sur nos réseaux sociaux que Momo va vous transmettre.
Avec grand plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Deeply Rooted l'émission, et sur Twitter, Deeply Rooted FR. Cliquez sur ce truc. Immédiatement.
Voilà, cliquez, comme disait un célèbre penseur. Donc pour écouter les podcasts, ce soir, direction NOLA, New Orleans, Louisiana. La Nouvelle-Orléans, et de quoi on va parler spécialement? Est-ce que Jojo, tu peux nous faire le menu rapidement?
Ouais, alors on va... Donc à Nouvelle-Orléans, il y a plusieurs choses, et on va dans un premier temps parler de ce qu'on appelle la bounce music. Ensuite, on va... plutôt s'intéresser à deux gros labels, deux monstres en fait, qui ont marqué le rap non seulement de Nouvelle-Orléans, mais de tout le sud et de même de tous les États-Unis. Voilà.
Ok, vous en saurez plus tout à l'heure. On se balance un premier son tout de suite, sans plus attendre. T.I. et Lil Wayne pour Ball. Et on se retrouve juste après pour la présentation de la Nouvelle-Orléans. À tout de suite. De retour sur Deeply Rooted, c'était Ball de T.I. qui n'a rien de spécial à faire dans cette émission, à part qu'on l'aime, et de Lil Wayne.
Il se place toujours bien, Lil, Thierry.
Exactement, et de Lil Wayne dont on parlera tout à l'heure. Donc on débarque à NOLA, comme je disais tout à l'heure, ou The Big Easy, un surnom qui fait référence au style de vie de la New Orleans, lié à son héritage, on va dire, musical, sa joie de vivre, l'atmosphère qui y règne. Vraiment une bonne ambiance, malgré les nombreuses difficultés qui touchent la ville, on va le voir. Pour mieux comprendre, comme d'habitude, on va faire un petit coup d'œil sur cette ville à travers quelques éléments géographiques d'abord, parce qu'on a cette bonne habitude de parcourir les États-Unis d'un bout à l'autre selon les émissions. Ici, on va situer vraiment au milieu des eaux, entre deux lacs, Pontchartrain et Borgne, pour ceux que ça intéresse, les côtes du golfe du Mexique et le célèbre fleuve Mississippi. Pour situer à peu près par rapport à nos émissions précédentes, on va dire qu'on est à mi-chemin... grosso modo entre Houston et Atlanta, et au sud de Memphis. Donc on commence à faire le tour du secteur, un bon tour. Historiquement, on peut rappeler, même si beaucoup le savent, que la France et la Nouvelle-Orléans entretiennent une relation de longue date, puisque c'est une ville qui a été fondée par un Français et longtemps colonisée. Elle est marquée par cet héritage à plusieurs points, l'architecture, le code civil, les lois, etc., qui sont influencées.
Ouais, les noms...
Les nôtres, oui, bah, rien que les noms des lacs, etc.
Les noms des gens aussi, des fois.
Des gens, des villes.
Exact.
Le bâton rouge.
Ouais. Et certaines traditions, on va le voir, comme le Mardi Gras, qui est une grosse, grosse fête là-bas, qui est un des événements les plus importants de l'année, qui est un gros carnaval, et qui aura son influence au niveau musical. Niveau chiffres, pareil, quelques pistes qui permettent de mieux comprendre cette ville. Elle est peuplée aux deux tiers par des Afro-Américains, ce qui aura une influence, bien sûr, au niveau culturel et musical. Jojo reviendra dessus tout à l'heure.
Complètement, oui.
Et donc, ce fut un centre commercial très important avec son port, etc. Mais ça a vraiment diminué au fur et à mesure. Et aujourd'hui, c'est devenu une ville l'une des plus pauvres du pays, à vrai dire, avec environ un quart de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Là, on est à 15% à peu près nationalement. Et on va bien sûr être obligé d'évoquer le passage de l'ouragan Katrina en 2005, qui a réellement dévasté la ville. On peut vraiment dire qu'il y a eu un avant et un après. Pour redonner un chiffre, 30% de la population est partie à cause de cet ouragan, soit à cause des problèmes, ou beaucoup de gens qui ont fui, notamment des artistes, bien sûr. Et donc on verra que musicalement, cet événement climatique naturel quoi, a eu des grosses influences. Et si vous voulez justement avoir une vision assez réaliste et socialement bien travaillée de la ville après Katrina, on peut que vous conseiller de mater la série Trémé de David, créée par David Simon et Eric Overmyer, pour mieux comprendre le...
David Simon, qui est l'auteur de The Wire, et la série Trémé, oui, c'est la vision de la ville après Katrina, Et surtout par rapport au point de vue musical, enfin des musiciens.
Ouais, en plus.
Voilà. Donc c'est d'autant plus intéressant pour nous, quoi.
Ouais, allez voir. C'est... De toute façon, ils font des bonnes séries. Et en plus, là, ça colle complètement au sujet. Et donc, c'est un lieu qui, culturellement et musicalement, est foisonnant. J'ai vu que c'était une des villes où il y avait le plus de festivals chaque année, environ 500 manifestations. Et tu peux, du coup, Jojo, nous faire un petit retour peut-être sur toutes les influences, les différents courants qu'il y a pu avoir dans cette ville avant d'arriver au hip-hop.
Ouais, oui, rapidement, bah, tu disais tout à l'heure qu'il y avait 2/3 de la population qui était afro-américaine. Nouvelle-Orléans, c'est vraiment le berceau du jazz, et notamment les brass bands au début, les gros ensembles de cuivre. Il y avait King Oliver dans les années 20, qui a ensuite été rejoint par Louis Armstrong. Il y avait aussi Jelly Roll Morton, qui est un des premiers jazzman. Donc ça, voilà, c'est pour le jazz, c'est vraiment, c'est plus ou moins né là-bas, quoi. Ensuite, il y aura aussi la funk de Nouvelle-Orléans qui sera assez reconnue. C'est moins comme la Motown, la Stax, des trucs qui vont être très, très reconnus nationalement, mais ils sont un peu plus restés entre eux. Mais il y a un son très, très reconnaissable. Je pense à des artistes comme Alain Toussaint, qui est justement un nom français, Dr. John, Professeur Longhair et les Meters, le groupe de Meters. Il y a aussi d'autres styles un peu plus mineurs, comme le Cajun, et le Cajun qui est aussi un style de musique,
oui.
Et le Zydeco, qui, voilà, c'est aussi un genre de blues funk, mais enfin, dans les deux cas, le Zydeco est une variante du Cajun, mais c'est avec de l'accordéon qui est l'instrument dominant. Donc là aussi, j'imagine qu'il y a une petite partie de culture française qui est à l'origine de tout ça. Et donc on en vient à l'émergence du rap à Nouvelle-Orléans. Donc c'est comme souvent, c'est souvent le son de New York qui se retrouve dans les premiers sons dans les autres villes des États-Unis. Donc il y a même un des premiers groupes qui s'appelle le New York Incorporated. On retrouve dans ce groupe-là Manny Fresh et Mia X, qui seront deux artistes dont on reparlera tout à l'heure.
Il y a des grosses figures de la scène locale, carrément.
Ouais, et surtout Manny Fresh, qui est un producteur DJ qui, au début, fait aussi des sons avec le rappeur Gregory D. Mais du coup, justement, plus dans ce... Il n'a pas encore trouvé vraiment son style, il est plus dans un truc New York. Et le déclic, en fait, c'est le morceau Drag Rap que vous avez écouté, qu'on a mis en intro en fond, là. Ce morceau, c'est une histoire un peu complètement folle. C'est un morceau d'un groupe new-yorkais qui était tombé, enfin, le morceau était tombé dans l'oubli peut-être 2 mois après sa sortie. Sauf qu'il y a un DJ de Memphis à la base qui l'a joué dans un de ses clubs et qui l'a retrouvé. Enfin, et les gens de Memphis sont devenus complètement fous. Ça a pris aussi Nouvelle-Orléans. Et ce morceau, Drag Rap, il a été rebaptisé Triggerman. Par le public de la Nouvelle-Orléans, le public des clubs, hein, c'est plutôt un truc de club. Et c'est la reprise de ce morceau, des différents éléments, et notamment la boucle de xylophone qu'on entend au tout début, celle-là, qui sera à l'origine de ce qu'on appellera le bounce, donc la bounce music, dont on va justement revenir, on va parler là tout de suite. Donc, le premier à sortir un single, hein, parce que ça, pendant, je sais pas, 2 ans, ça enflammait les clubs, etc. Le morceau des Showboys, le morceau originel. Mais le premier qui en fait un truc, qui le sent, puis qui en fait vraiment un truc à lui, c'est MC T-Tucker avec DJ Irv, qui sort Where They At. Donc ça, on est au début des années 90. Et ensuite, il y aura aussi un certain DJ Jimmy, qui invite un jeune MC qui s'appelle Juvenile, et dont on parlera aussi... Dans une autre partie tout à l'heure. Il y a aussi DJ Jubilé, voilà, qui complète un peu les pionniers, voilà quoi.
Et donc pour bien comprendre l'espèce de sample qu'on vous a mis au début et que vous avez réécouté à l'instant, c'est vraiment tous les sons au début étaient vraiment basés sur ce truc là. On le retrouvait.
Ah ouais, c'est incroyable, tu le retrouves dans.
C'était la marque de fabrique, on l'a retrouvé dans le son de T.I. Je sais pas si tu l'as dit.
Ouais.
Juste après, justement, c'était une version plus moderne où ils ont incorporé ça. Donc ça qui est marrant, tout le monde le mettait au début.
Je pense qu'aussi c'est un des samples, enfin au niveau des droits d'auteur, je pense que c'est sûrement un des trucs, une fortune, enfin les
ouais,
les mecs des Showboys sont passés à côté d'une fortune incroyable, quoi.
Mm-hmm.
tellement ça a été utilisé. Si tous les droits d'auteur avaient été payés,
j'avoue que
ils auraient pu vivre toute leur vie sur un morceau, tu vois.
Carrément. Et donc pour revenir sur la bounce music, qui est donc quand même le style rap le plus en place sur la ville quand on parle de la Nouvelle-Orléans. Au niveau des caractéristiques sonores, on reste sur du up-tempo, des grosses basses. On en avait parlé, je crois, déjà la dernière fois, il me semble, sur le phénomène, enfin le mécanisme de call and response, c'est-à-dire d'appel et de réponse.
Ouais, qui était déjà présent à Memphis et qui a été repris par le Crunk, ouais.
Voilà, on peut le répéter, qu'est-ce que c'est? C'est genre le fait de crier quelque chose et les gens, notamment dans le public, vont nous le répondre. Après, dans les clips, ils vont mettre un bac derrière, etc. Et donc, mais ça fait partie du processus de fait d'échanger avec le public beaucoup et de le faire participer.
Plus caractéristique, c'est ce call and response, c'est peut-être aussi influencé par les chants indiens.
Ouais, exactement, du Mardi Gras, dont on parlait tout à l'heure. Qui sont pas des Indiens, c'est des Afro-Américains.
Alors que pour Atlanta, c'était plutôt le gospel. Donc là,
exact.
Ce qui est plus caractéristique de la Nouvelle-Orléans.
Ouais, là, ça viendrait donc des chants indiens du Mardi Gras qui sont des espèces de processions d'Afro-Américains qui mettent des costumes plus influencés indiens, justement, et qui ont des chants qu'on retrouve après dans la musique, dans la bounce music. Donc on a ça qui vient clairement de la ville. On a l'influence de la funk locale que tu as évoqué tout à l'heure, les grosses basses qui sont toujours présentes dans le sud, et ces cuivres aussi que tu évoquais tout à l'heure, qui viennent des brass bands qui étaient très nombreux dans le secteur. Et voilà, donc après, autre chose, c'est de dire que c'est de la musique qui est faite pour bouger, comme dans les villes voisines qu'on a pu étudier. C'est créé au début des années 90 pour les clubs et les block parties, clairement. On n'est pas spécialement dans du rap conscient, encore une fois. Et donc, tout en relatant leur quotidien, les rappeurs vont s'appliquer à nous faire danser, parfois dans des sortes de trance, qui là aussi vont rappeler des rites vaudou, parce qu'il faut savoir que jusqu'à plutôt récemment, la Nouvelle-Orléans, tu avais encore des rites vaudou qui se faisaient. Et donc, ça va se répercuter dans la danse, et dans une danse bien particulière qui a fait un retour assez récemment, qui est le booty shaking, mais qui est le twerk, qui vient de Work It and Shake It, et qui est revenu à la mode grâce à l'ami Miley Cyrus en 2013. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant la séquence des MTV Music Awards, où elle a impressionné un peu tout le monde.
Si, je ne mets toujours pas de respect sur le nom de Miley Cyrus.
Voilà. Donc, qui consiste à bouger frénétiquement ses fesses, qui pourrait être apparenté, à une sorte de rite, c'est assez, assez fou. Bon, après, c'est très sensuel, voire même sexuel comme danse. Mais donc, il faut savoir que le twerk, ça apparaît là-bas dès le début des années 90, quoi. Et donc, c'est revenu récemment, mais ça vient clairement, c'est relié à la bounce music. Et ce rapport à la sexualité, on va le retrouver aussi dans la CC Bounce, qui est un autre courant, un style proche musicalement, bien sûr, qui en découle, et qui accentue encore le côté provocant, très sexuel, jusqu'à permettre en fait à l'artiste d'effacer son identité sexuelle propre, et réussir dans un milieu qui est quand même très sexiste et très homophobe, le hip-hop, à supprimer au moins pendant un temps les discriminations. Et on a beaucoup d'artistes transsexuels dans la bounce music. Il y a vraiment une frange très importante avec des artistes assez balèzes comme Big Freedia ou Cathy Red, qui sont des artistes importantes. Et qui...
C'est vrai que je connais pas d'autres transsexuels dans le rap, en fait.
C'est assez fou.
Là, on est à deux, donc c'est assez fou. Ouais. Mm-hmm.
Puis peut-être que ça rejoint aussi... sans manquer de respect à personne, mais ce délire de se déguiser et puis d'être quelqu'un d'autre momentanément.
Je sais pas. Mais c'est fou de se dire que ils ont clairement réussi, et c'est vraiment une part importante de la bounce music. Et pour revenir dessus, on va peut-être faire un petit tour des gens qui ont marqué cette scène tout spécifiquement. Je sais pas où.
À part les pionniers que je t'ai cités, moi c'est vrai que je ne reconnais pas des masses. Après là, je vais revenir plus profondément sur le label Cash Money.
On attaque direct les deux gros monstres.
Je crois qu'il va falloir s'y mettre.
Si on les attaque pas, c'est eux qui vont nous attaquer.
C'est vrai qu'il y a du temps. Bon, on va lancer ça. Vas-y Jojo.
Ouais, voilà, donc moi en fait je vais vous parler du label Cash Money. Donc en fait, là on vous a parlé de l'émergence de la bounce. Donc le son de la Nouvelle-Orléans s'est réellement créé à partir de ce moment-là. Il y a les labels locaux qui commencent donc à se monter. Il y a le DJ Jubilé, qu'on a cité tout à l'heure, qui a lancé son label Take 4. Big Boy aussi, qui est un autre label, Untouchable. Et donc Cash Money Records. dont on va, voilà, que le nom est assez équivoque, et pour illustrer déjà avant tout propos ce label là, on va commencer par un morceau qui s'appelle Bling Bling.
D'ailleurs, le mot viendrait de là-bas aussi.
Le mot vient de ce morceau-là, en fait.
Donc, Twerk et Bling Bling, maintenant, vous saurez que ça vient de la Nouvelle-Orléans.
Young Moula, baby. Allez, donc, Bling Bling de Bee Gees, donc, et Cash Money Millionaires, donc un peu toute la team Cash Money.
Vous êtes toujours sur Deeply Rooted, Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. On va vous parler maintenant de la Cash Money. Vas-y, Jojo, à toi.
Exactement. Donc, Cash Money, c'est l'histoire d'abord de deux frères. Donc Brian Baby et Ronald Slim Williams, c'est les frères Williams. Donc ces deux voyous, ils sont issus du quartier de Magnolia. Ils ont déjà donc de nombreuses casseroles et une sacrée mauvaise réputation au moment où ils fondent le label Cash Money en 91. Mais la première chose qu'ils font, par contre, ils ont quand même le nez creux, c'est qu'ils engagent Manny Fresh, dont on a parlé tout à l'heure, qui deviendra leur producteur maison et qui fera toutes les prods. Oui, c'est quand même quelqu'un d'assez talentueux, donc c'est pour ça que je dis qu'ils ont le nez creux. Et donc, il y a donc une première époque Cash Money de 91 à 96, avec des artistes aujourd'hui qui sont un peu oubliés, comme UNLV, PMW, Misty, Lil Slim, Kilo G, Pimp Daddy, voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Donc on entend le Triggerman, le son dont je parlais tout à l'heure, on l'entend partout. Mais par contre, il y a une ambiance, c'est un peu moins tournée vers les clubs, c'est un peu plus dur, un peu plus street. Et c'est pour ça qu'on parle de Gangsta Bounce. Donc, et voilà. En tout cas, c'est une première période qui illustre bien finalement ce qu'est Cash Money, parce que tous ces artistes-là, on les a oubliés. Pourtant, ils ont quand même rapporté pas mal d'argent. Et ça illustre bien cette technique un peu crapuleuse des frères Williams, c'est-à-dire qu'ils prennent des rappeurs vachement jeunes, très influençables, et ils leur font signer des contrats un peu infâme, un peu dégueulasse, et voilà, donc ces rappeurs-là, ils sont tout malgré tout l'argent qu'ils ont apporté à ses frères Williams, ils sont complètement oubliés. Voilà, et donc la seconde époque, c'est donc à partir de 97, bizarrement, on ne voit plus du tout les rappeurs et les groupes que j'ai évoqués tout à l'heure. Là, il y a des nouvelles vaches à lait, c'est ce qu'on appellera les Hot Boys. Donc, ils sont composés de Juvenile, Bee Gees, c'était un morceau de Bee Gees, hein, le Bling Bling, Lil Wayne, qui a été aussi découvert très tôt, il a été signé chez Cash Money à partir de 11 ans, je crois, et donc Turk. Et ça se traduit aussi par un changement de style de Manny Fresh, qui est du coup moins bounce, on entend moins le morceau Triggerman, et le son un peu plus, vraiment plus street et énervé, quoi. Pour illustrer le mieux ce style-là, je vous conseille le grand classique de Juvenile qui s'appelle 400 Degrees. C'est vraiment...
C'est Manny Fresh. C'est brûlant, ouais. comme l'indique le nom.
Et Manny Fresh est vraiment à son pic de forme, quoi. Il est vraiment à son apogée en termes de production. C'est assez incroyable. Pour moi, Manny Fresh, c'est vraiment le... Enfin, c'est lui, pour moi, le vrai joyau de Cash Money à cette époque-là. Et c'est un peu l'ancêtre de Zaytoven, qui est lui un des producteurs phares de la trap, notamment avec Gucci Mane. Il y a un son très dans Manny Fresh et qui se retrouve un peu dans Zaytoven. C'est un son vachement synthétique, même parfois un peu plastique, mais sans être cheap, tu vois, ça fait pas truc dégueulasse, c'est très sophistiqué. Il y a plein de détails, et notamment dans Bling Bling, hein, je sais pas si ça paye pas de mine comme ça, mais il y a plein de petits trucs, plein de petites pistes qui sont ajoutées. Enfin, c'est hyper fourni. Et donc, c'est Manny Fresh, c'est un grand, grand producteur, quoi. Mais voilà, à partir des années 2000, il y a les membres des Hot Boys qui finissent tous par craquer et cherchent à sortir de cette sorte de prison dorée qui est Cash Money. Il y a que Lil Wayne qui, lui, justement, se révèle être le plus prometteur et le plus vendeur, qui est retenu. Et... Alors qu'à la base, Baby, l'un des deux fondateurs du label, ne croit pas du tout en lui. Mais pour arriver à le retenir, il le laisse lancer une antenne du label qui s'appelle Young Money. Donc en fait, Lil Wayne détient 49% et Cash Money 51%. Mais il y a encore énormément d'embrouilles là-dedans. Enfin, en fait, le grand truc de Cash Money, c'est que si tu veux, comme je t'ai dit, il signe des artistes vachement jeunes. En fait, il récupère quasiment tout l'oseille. Après, ils achètent des cadeaux. ils offrent des cadeaux à leurs rappeurs, tu vois, mais tout l'argent, c'est eux qui le gagnent.
Oui, ils sont connus pour que les artistes réclament leur part derrière et n'obtiennent.
C'est vraiment de la grosse crapulerie, ouais.
On est sur une future carrière de politicien pour Birdman.
Ouais, bon, ouais, il a le bon niveau de casserole pour se lancer, ouais, clairement. Donc voilà, Lil Wayne, qu'on a entendu aussi sur le premier morceau, c'est quand même finalement le plus gros rappeur qui sort de ce label. Et aujourd'hui, il est en procès avec Cash Money parce qu'il s'est fait arnaquer de plusieurs millions de dollars. Mais ces embrouilles, ça date du début d'année 2000 déjà. Et ça continue encore, donc c'est pour dire vraiment un truc de fou. Donc on va parler déjà un peu de Lil Wayne aussi. Lil Wayne, il sort ses premiers albums, il est encore mineur, fin des années 90. Mais sa carrière, elle commence vraiment, on va dire en 2004, quand il y a le premier Carter qui sort, premier album Carter. Et là, il commence à devenir complètement dingue. Il sort des mixtapes tout le temps. Il y a Carter 2, Carter 3 aussi. Et à ce moment-là, c'est vraiment, entre ses albums et ses mixtapes, j'ai l'impression qu'il ne peut jamais s'arrêter de rapper. C'est complètement fou. Ça donne des albums qui ne sont pas toujours bons de A à Z. Il y a souvent quelques fausses notes, mais il y a quand même des moments de grâce assez incroyables. En tout cas, à travers cette période-là, notamment, ce sera un des rappeurs les plus influents de l'histoire du rap, tout simplement. Et ça se retrouve aujourd'hui dans des rappeurs tels Young Thug ou Future. Et il faut savoir aussi qu'il a découvert, donc sur son label le Young Money, il a découvert des rappeurs comme notamment Drake et Nicki Minaj, donc c'est quand même pas rien. Ça a beaucoup vendu et ça a beaucoup apporté beaucoup d'argent à Birdman, a.k.a. Baby, parce que Baby a changé son nom, qui s'appelait Birdman, moins à Lil Wayne, mais bon. Donc voilà, donc pour conclure sur cette partie Cash Money, on va se mettre un petit morceau de Juvenile, de l'album 400 Degrees dont je parlais, donc Rich Niggas, très gros morceau, très chaud.
Allez, à tout de suite. De retour après cette mi-temps musicale. Et cette fois-ci, Momo, c'est à ton tour. Je sais que depuis tout à l'heure, tu brûles d'impatience de nous parler de No Limit Records.
Ah ouais, mais de ouf, hein. Moi, ma seule envie, là, aujourd'hui, c'était de parler de Master P et de No Limit Records.
Allez, vas-y.
No Limit Records, qui est le second gros label de la Nouvelle-Orléans. Après Cash Money, enfin, pas après Cash Money, mais voilà, on parle d'égal à égal. Après, on n'est pas totalement sur le même délire. Pour parler de No Limit, je vais d'abord parler de la tête pensante du groupe, du label, c'est Master P. Master P est qui est Percy Miller dans l'administration, dans la vie du quotidien. On est sur un rappeur, entertainer, businessman, acteur, joueur de basket, idole des jeunes et des grands-mères, quoi. Assez incroyable, mais on reviendra un peu plus tard sur tous les qualificatifs qu'on peut lui attribuer. Master P, du coup, comment se lance sa carrière? C'est très très simple, c'est un mec qui a eu toujours le business comme state of mind, comme état d'esprit. C'est un gars qui a hérité de 10 000 dollars après la mort de son grand-père et qui a décidé d'ouvrir une boutique de CD qui s'appelle du coup No Limit, qui deviendra son label plus tard et qui deviendra ce gros label dont je vous parle dans ce paragraphe-là. Du coup, une fois qu'il a fondé ce petit oui-oui où il vend des CD, il décide de se barrer en Californie pour se faire un peu plus de blé, parce que la Californie, c'est là où le rap se passe à ce moment-là, c'est au début des années 90, et il se dit que bon, bah, pour faire de l'argent, il faut aller là. Enfin, si tu veux vendre des CD de rap, il faut aller là où le rap se fait. Petit à petit, il se lance aussi dans le rap, donc il fait plusieurs albums. Et sur ces albums-là qu'il fait, on sent une énorme influence de la West Coast. On peut même, enfin, tu l'écoutes, tu peux même pas te dire que c'est un mec qui fait du son sudiste, quoi. Là-bas aussi, au final, il commence à se faire connaître petit à petit. Et in fine, dans les années 95, il revient à Nola, à la Nouvelle-Orléans. Il y forme le groupe True, T-R-U, avec ses deux frères qui sont C-Murder et Silk the Shocker, sacré sobriquet. Et voilà, il commence à se faire un peu un nom dans le milieu. Il a aussi, en même temps, en revenant à Nola, il a décidé de rapporter le côté gangsta rap qu'il y avait dans la West Coast, et de le repopulariser dans le Sud, et plus particulièrement à la Nouvelle-Orléans, parce que le gangsta rap se mourait un peu sur la West Coast, donc il fallait lui redonner un petit coup de boost. ça l'a pas empêché pour autant de collaborer avec des gens du Sud, notamment UGK dont on vous a parlé dans l'émission du Stone, Jermaine Dupri dont on vous a parlé dans la précédente émission sur le crunk, continuer à mettre du respect sur son nom, et je pense qu'à cette vitesse-là, on va faire une full émission sur Jermaine.
Il faut, par contre, si je peux juste me permettre de te demander un truc, il y a bien une grosse influence de la West Coast, c'est même carrément gênant des fois, genre où t'entends notamment son frère C-Murder qui rappe limite comme Tupac, non, enfin, faut quand même le dire.
Ah ouais, non, c'est incroyable, c'est pareillement là.
On est sur du plagiat, quoi.
On est sur du entre l'influence et le plagiat.
Quand même.
Mais ouais, c'est assez incroyable. Ceux qui sont un peu fans de Tupac ou même qui ont, je pense que Tupac, les gens connaissent un minimum. Et si vous écoutez C-Murder, on croirait que c'est lui qui rappe, quoi. Ou que c'est C-Murder qui rappait sur les albums de Tupac, on sait pas trop. Du coup, il sort 4 albums, comme je vous le disais, voilà, il se fait connaître petit à petit, et il pète vraiment à partir du 5e album qui s'appelle The Ice Cream Man, et le single éponyme qui est dans l'album. Et en fait, The Ice Cream Man, en fait, c'est au-delà même de la musique. C'est-à-dire que lui, quand il était petit, il raconte ça dans un documentaire, dans une anecdote, il dit qu'il voyait le Ice Cream Man, le mec qui venait vendre des glaces dans son Project House, donc dans le ghetto, qui est Calliope. Calliope, qui est la deuxième grosse cité, on va dire, de la Nouvelle-Orléans, avec Magnolia, dont Jojo vous parlait un peu plus tôt. Et il le voyait venir, et en fait, il se rendait compte que tout le monde était fan de ce mec-là, tout le monde venait lui acheter des trucs, et qu'il était en mode businessman, self-entrepreneur, et que voilà. Et donc, c'était pour ça que c'est un peu une sorte de dédicace à ce moment-là de son enfance. Il continue, en fait, à enchaîner les hits. On n'est pas trop sur une influence de la bounce music chez Master P, même si ça s'entend sur certains sons comme le single Make DSM U. Bon, ça ressemble à peu près à ça, mais c'est pas si fou que ça.
Ouais, l'influence de la West Coast est plus évidente, quoi.
Ah ouais, carrément, de fou. Au-delà même de sa carrière solo aussi, Master P, c'est l'antithèse de Birdman, dans le sens où c'est quelqu'un qui voulait faire et rayonner la Nouvelle-Orléans et aussi faire manger les siens. Donc comme je vous le disais, il a fait rapper ses frères, il faisait rapper des gens de la Nouvelle-Orléans comme Mystical qu'il a signé sur son label, Mia X dont on vous a parlé un peu plus tôt, qui est la première nana qui a signé sur son label, qui est pour moi la meilleure rappeuse du label, et en plus de ça, la personne qui est le plus dans le délire bounce. On est sur des paroles un peu osées, c'est un peu la grand-mère de Nicki Minaj dans le fond. Et voilà, et il a fait pareil, il a fait signer son fils Lil Romeo. Bon, on n'est pas sur de la musique de fou, hein. Lil Romeo, c'est la version sudiste de Lil Bobo. C'est plutôt drôle, ça se la joue gangs, mais bon, c'est des bébés qui se la jouent gangster, quoi. Et autre anecdote, du coup, sur le label No Limits, qui était quand même représenté par un char d'assaut. C'est le logo du label, pour vous dire l'état d'esprit dans lequel il se situait, c'est-à-dire rouler sur...
Tout écrasé, quoi.
Voilà, tout écrasé dans le rap US. Il a même recueilli Snoop Dogg, du coup, fidèle à ses racines West Coast, et parce que, comme je disais, le rap de la West Coast se mourait un peu. Il y a Dr. Dre qui s'est barré dans son coin, Tupac qui est mort... Sujnet qui était en mode je vais tuer tout le monde sur la West Coast, il l'a recueilli pour 3 albums qui ont tous très bien marché, et dont un, The Last Meal, le dernier que Snoop Dogg a fait sur son label, qui est très très cool. Voilà, donc grosso modo, No Limit Records, ça a été entre les années 95 et 2000 un rouleau compresseur qui enchaînait les CD, enfin les disques de platine, les disques d'or, et c'est comme
il
ça
un gros rythme bâti. De production, non, surtout moi j'ai l'impression que c'est surtout un business model où on produit en masse, non?
Ouais.
Moi c'est l'impression que ça me fait, tu vois.
C'était carrément ça, il fallait inonder les ondes radio, et pas que les ondes radio au final, parce qu'il a voulu aussi s'immiscer dans à peu près tous les domaines possibles et imaginables. C'est un mec qui est en termes de business un modèle dans le sud, lui et Jay Prince de Rap-A-Lot, dont on vous a aussi parlé dans l'émission de Houston. Savoir que c'est quelqu'un qui a très vite compris le jeu que les majors, les maisons de disques jouaient, et qu'il a réussi à négocier des contrats où il prenait 70 à 80% des parts de ce qu'il faisait, parce que c'est lui qui faisait tout le taf, c'est lui qui faisait la promo, c'est lui qui faisait le marketing, c'est lui qui faisait les pochettes d'albums. Et en gros, il voulait gagner un max d'argent sur ce qu'il faisait, et il a réussi. Du coup, en plus de vendre énormément de CD, il a réussi à engranger beaucoup d'argent dessus. Prendre 80% sur des millions de CD quand t'es en indé, je vous laisse faire le calcul à 20 euros l'album. Voilà quoi, on est sur une très grosse fortune. Et au-delà de ça, il a été très malin parce que quand il faisait un son, il proposait. C'est un mec qui a fait des films aussi. Genre, il a été très vite à se lancer là-dedans, à faire des films qui se passaient dans le quartier, dans la cité.
C'est un mec qui touchait tout, quoi.
Ah oui, carrément. Bah, comme je disais,
il a de l'oseille à se faire, hein. Il est là, quoi.
Il a fait la promo de ses albums en jouant au basket pendant la pré-saison. Le mec a trouvé le moyen d'être bon. Il a fait des films qui vendaient dans les rayons disques de sa boutique. Quand il faisait un film, il proposait une bande-son avec. Ce qui faisait que le mec était en mode multicanal. Tu regardais son film. Il faisait des vêtements aussi, donc t'achetais les vêtements qui faisaient la promo du film, t'achetais la BO du film, et puis t'étais fan de No Limit et tu continuais à acheter leurs trucs parce que, en fait, ils vendaient un état d'esprit, cet état d'esprit No Limit, encore plus même que sa musique.
Ouais, ce qu'il a vendu dans son bouquin après, il a fait un bouquin, il me semble, pareil, plus sur cet état d'esprit entrepreneur, machin, tout ça.
Mec, il a fait il a été l'égérie d'une marque de chips. Donc, pour te dire, il a réussi à faire une série télévisée pour Nickelodeon et son fils Lil Romeo. Enfin, le mec, on est sur quelqu'un de. Visionnaire, on va dire ça comme ça, quoi. Et ça a influencé énormément de rappeurs dans la manière d'aborder leur deal avec les maisons de disques et d'être en indé, quoi. Et voilà, moi je vous invite clairement à aller vous renseigner sur ce mec-là parce que. On est sur un petit génie et comme quoi on peut sortir d'un ghetto où on perd son frère, on a quasiment pas de chance de réussir et devenir un mec multimillionnaire et de façon plutôt propre parce que c'est pas un gars qui a arnaqué des gens. C'est juste dit, je vais faire mon propre
comme business. Tu dis, c'est vraiment l'antithèse de Birdman, quoi.
Ah ouais, totalement. Puis bon, il y a eu des moments où ils sont pas trop entendus tous les deux. Et puis même checker ses sons parce que mine de rien, le gars, je sais pas, bientôt la cinquantaine et il continue à produire des trucs, notamment avec un mec qui s'appelle Calliope Popeye. Donc on est sur des noms farfelus encore, et voilà. Donc moi, gros coup de cœur pour No Limit, et pour continuer dans ce coup de cœur-là, je vous propose de vous écouter un son de Mia X, qui s'appelle Payback 2, et on se retrouve après ce son pour conclure sur la scène de la Nouvelle-Orléans.
De retour dans Deeply Rooted, on vient de s'écouter le son de Mia X, Payback 2. On va se faire une petite conclusion. Déjà, pour rappeler un petit peu de quoi on a parlé, on a vu dans la première partie que donc grosse ville au niveau influence musicale, culturelle, etc. La bounce music et la partie hip-hop vraiment spécifique à la ville. Et ensuite, on a vu un peu plus en détail les deux gros mastodontes, plus ou moins influencés d'ailleurs par la bounce music, avec d'un côté l'escroc Birdman et Cash Money, et de l'autre côté Master P, qui est plus West Coast, de base, et avec No Limit Records. On va voir maintenant les influences qui restent un petit peu dans la période plutôt moderne. En intro, je parlais de l'ouragan Katrina, par exemple, et je pense que c'est bien de revenir là-dessus, parce qu'on va voir que, au-delà du coup des dégâts que ça a fait sur la ville, on a eu vraiment une influence sur la musique, notamment sur la musique du Sud, où on avait vu dans les autres émissions qu'au niveau budget, etc., c'était pas des musiques qui s'exportaient forcément naturellement très bien. Et l'ouragan Katrina a fait qu'en fait, beaucoup d'artistes ont été forcés de s'exporter dans les États voisins, ce qui fait qu'il y a eu quand même une propagation, je sais pas ce que vous pourrez rebondir là-dessus, mais il y a eu quand même une influence sur les États proches, au niveau musical, après 2005, du fait de l'ouragan qui a poussé les mecs à faire des concerts, il y a eu beaucoup. Bon, après, il y a eu aussi l'influence des concerts de soutien, il y a eu des musiques même dédiées à ça, etc. Mais ça a vraiment bougé pas mal de choses. Voilà. Quitte à ce que, d'ailleurs, les anciens. En gros, ça s'est mélangé, un peu dilué dans le rap mainstream, comme beaucoup de courants qui ont influencé ce qu'on écoute maintenant. Et donc, oui, les anciens de la bande sont toujours ce. Petite aigreur à dire que maintenant c'est devenu plutôt une performance physique, le rythme a encore accéléré, les paroles, c'était déjà pas du rap conscient comme je l'avais dit, mais maintenant c'est vraiment limité au maximum, quoi. Ça va être limite des boucles de phrases qu'on répète à l'infini. Et voilà, je sais pas si vous voulez dire quelque chose là-dessus.
On a la limite de la plus de la musique électronique, limite que. Voilà. Je pense à Big Freedia, je crois que tu as cité tout à l'heure, une des artistes, ouais, transsexuelles qui. Elle s'est quand même bien fait voir ces derniers temps, parce qu'elle a fait elle était sur un des morceaux avec Drake sur son dernier album. On parle encore de Drake, hein, une bonne fois.
C'est l'heure de la minute Drake.
Allez, crazy.
Non, mais elle a aussi fait un morceau sur Formation, le morceau de Formation, de Beyoncé, ouais. Mm-hmm. Puis elle a aussi fait des morceaux avec DJ Snake, etc. Enfin, bon,
on a eu une espèce de retour là de la bounce music, l'influence sur 2018, justement avec Beyoncé, Nerd, il me semble qu'il y a.
Ouais, il y a eu Nerd aussi.
Et ça, et Drake, tu parlais tout à l'heure avec la chanson
Nice for What. Oui,
Nice for What.
Donc Big Freedia, justement, cet artiste-là qui intervient dessus, quoi.
D'accord. Donc ça, c'était premier point. Deuxième point. Pour boucler un peu, parce que maintenant on a quand même fait un tour du sud, même s'il nous reste peut-être une ou deux cartouches qu'on ne dévoilera pas maintenant. Mais c'est dire la trap après tout ça, qui était quand même le genre, le courant qui a éteint un petit peu toutes ces influences. J'ai vu plusieurs endroits où on nous disait que la trap, justement, c'est un peu l'aboutissement et la synthèse du son de Memphis, le son de. On vient parler maintenant de la Nouvelle-Orléans. Du crunk et de Houston, du Dirty South en général. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ?
On peut dire ça comme ça, ouais, c'est un peu une synthèse, et effectivement, ça me paraît assez plausible, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la trap a pris le dessus sur tout, et puis même si c'est plus centré à Atlanta, c'est un peu le nouveau genre sudiste par excellence, et un peu partout, et donc forcément, ça pioche des influences à droite, à gauche, dans le sud, quoi.
Je pense que la trap, c'est actuellement au rap ce qu'était le son new-yorkais dans les années 90. Et dans le sens où c'est vraiment la marque de fabrique du Sud. Il faut savoir que dans le Sud, ils sont assez solidaires, quelles que soient les villes. Même si, bon, à l'intérieur même des villes, parfois, ça peut se clasher. Mais le Sud a émergé parce que c'est parti en vrille à New York. Et je pense que de cette solidarité dans le Sud et musical et d'entraide pour que le Sud soit visible dans le rap. En fait, c'est exactement ça l'aboutissement de la trap. C'est cette solidarité qui a fait ce mélange de musique qui fait que la trap a émergé et que ce soit maintenant ça qui roule sur les États-Unis, à mon sens.
Ouais, maintenant, c'est plutôt les artistes de New York qui refont ce que font les sudistes, alors que nous, on disait toujours qu'au début, c'était toujours les Suisses qui refaisaient ce qu'ils faisaient à New York. Bah maintenant c'est plutôt l'inverse, en fait, qu'on voit. Donc comme quoi, oui, le takeover est complet, quoi.
De toute façon, on vous fera fatalement une émission sur la trap à un moment, on n'y échappera pas, mais avec plaisir, j'imagine.
Ouais, clairement, ouais.
Et je sais pas, si on a fait le tour, je pense que c'est bon, et on va se quitter sur un son de Lil Wayne.
Ouais, du coup, sur le dernier album de Lil Wayne, qui est normalement donc Da Carter 5, qui est normalement le dernier qu'il a contractuellement avec Cash Money, et donc peut-être qu'il va peut-être sortir de ses emmerdes. Mais en tout cas, bon retour de Lil Wayne. Ça faisait quelques années qu'il n'avait pas sorti un bon disque comme ça, et donc c'est donc le titre Uproar qui est un des meilleurs titres.
Yes. N'oubliez pas, si vous voulez écouter les émissions, Deeply Rooted, l'émission sur Facebook, Deeply Rooted FR sur Twitter, et on n'a pas choisi encore le thème de Noël, on verra bientôt. En tout cas, on vous souhaite une bonne nuit. Et on vous dit au mois prochain, alors.
Yes.
Ciao.
Ciao.